Bonjour et bienvenue à ce 40e balado des gestionnaires en action. Ici Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour.
Bonjour.
On parle aujourd'hui des stratégies d'investissement des plus grands investisseurs de l'histoire et on a quelques noms pour nos auditeurs et vous voulez commencer avec Philip Fisher.
Oui, en fait, je trouve l'été, c'est toujours un peu à propos, là, même si peut-être on va moins aller à des plages que dans les années antérieures, là, mais c'est le temps des fois de relire un peu là, les classiques là, de l'investissement. Et un des grands livres, à mon avis, là, sur le placement, c'est Common Stocks and Uncommon Profit, que Philip Fisher a écrit à la fin des années 50. Philip Fisher, c'était un gestionnaire de portefeuille qui avait sa propre boîte et qui était très concentré. Il avait peu de clients et il avait aussi peu de titres dans son portefeuille. Et il les gardait plusieurs années, voire même des décennies. Un des titres qui a très bien fait, qu'il a eu pendant plusieurs années, c'était Motorola, là, qui à l'époque était une jeune entreprise en très forte croissance. Et plusieurs autres sites intéressants qu'ils ont découverts à leur début, comme par exemple Nucor, la scierie de Caroline du Nord.
Et c'est une stratégie qui est quand même assez différente d'un autre grand investisseur dont vous voulez nous parler, qui est Peter Lynch.
Oui, Peter Lynch avait bon, une approche similaire, trouver des belles compagnies, les acheter à bon prix, les garder plusieurs années, mais était beaucoup, beaucoup plus diversifié que Phil Fisher. Phil Fisher a probablement 6-7 titres dans son portefeuille, alors que Peter Lynch était plusieurs centaines. Donc, c'est un peu différent comme façon de gérer les capitaux, mais gérer la philosophie de base, c'est de voir les actions comme des parts d'entreprise, ça, il l'avait, et aussi d'être très sélectif sur la qualité du management, la qualité de la business, l'évaluation boursière aussi, qui était assez prudente. Probablement que Peter Lynch était un petit peu plus entre guillemets, valeur que pouvait peut-être l'être Philip Fisher, mais les deux ont une approche autant à long terme que de focusser sur la qualité des entreprises. Et Peter Lynch a écrit trois livres, dont le plus célèbre est One Up on Wall Street, qui est écrit à même, selon, je pense, à la fin des années 80, et qui reste un des grands classiques aussi là, sur la bourse. Là. Des fois, je relis ce livre-là, là, puis on retrouve des grandes vérités qui sont encore vraies des décennies plus tard. Là.
Et vous voulez aussi nous parler de Benjamin Graham, évidemment, M. Graham, qui est décédé au milieu des années 70. Donc, les théories remontent quand même à loin, mais vous voulez tout de même nous en parler aujourd'hui.
Oui, je pense que s'il y a un seul livre à lire sur le monde du placement boursier, je pense que l'investisseur intelligent, ça reste le numéro un. C'est un livre qui a été écrit en 1949 et qui, bon, il y a eu quelques rééditions depuis. Les exemples ont été un peu rafraîchis, mais quand même, là, les idées de base restent, je dirais, là, la pierre angulaire de l'approche d'investissement de valeur. Et en fait, c'est le livre qui a guidé Warren Buffett vers sa philosophie de placement. Ben Graham, c'était un héros de Warren Buffett, est allé même travailler pour lui à New York pendant quelques années. Et Ben Graham avait bon, une approche peut-être assez plus focusée sur trouver des titres extrêmement sous-évalués, qui probablement aujourd'hui seraient un petit peu plus difficiles à réaliser, là, dans un marché quand même un peu plus efficace qu'il pouvait l'être dans les années 30, 40, 50, là. Mais connaissant bien sa philosophie, je pense qu'il n'était pas contre l'idée là d'acheter des compagnies solides avec des beaux bilans qui avaient des évaluations raisonnables. De relire, je le relis des fois, là, l'investisseur intelligent. J'ai même les plus vieilles versions, là, celle de 1949, entre autres. Je pense qu'elle est très intéressante de la lire et de voir quand même que certaines choses changent. Plusieurs des compagnies dont ils discutent n'ont jamais entendu parler, là, donc qui ont disparu depuis longtemps, là, ou ont été achetées et converties à d'autres choses, là. Mais les idées fondamentales, la nature humaine là, par rapport à la bourse, elle n'a pas changé.
Et vous venez de le dire, Warren Buffett, qui a été grandement inspiré de la philosophie d'investissement de Benjamin Graham. J'aimerais qu'on termine avec Warren Buffett et son acolyte Charlie Munger, les deux hauts dirigeants de Berkshire Hathaway.
Oui, probablement que M. Buffett et M. Munger ont été les plus célèbres investisseurs, entre guillemets, de valeur dans l'histoire. Et je pense une des choses qu'ils ont aidé, c'est qu'ils ont commencé jeunes et ont bâti sur plusieurs décennies, puis aujourd'hui, ils sont rendus d'un âge avancé. Ça leur a permis de, donc pour prendre l'analogie de Warren Buffett, là, de faire grossir la boule de neige pendant bien des années, là. Mais oui, c'est des gens, je pense, qui ont une exceptionnelle philosophie d'investissement. Ni l'un ni l'autre n'ont écrit de livres. Par contre, on peut lire plusieurs livres de Warren Buffett, évidemment, mais je pense que la meilleure lecture, ça reste les lettres annuelles de Berkshire Hathaway. Et dans le cas de Charlie Munger, je dirais mon livre favori, c'est The Poor Charlie's Almanac, que Peter Kaufman a écrit il y a peut-être une dizaine d'années, qui est un livre vraiment intéressant, vraiment le fun à lire, là. Donc, je pense que ça peut être une excellente lecture de plage, entre guillemets, de piscine de banlieue ces jours-ci, là. Ça reste des excellentes lectures, puis je pense qu'on peut comprendre quand on finit de lire ça, pourquoi que c'est vraiment les plus grands investisseurs de l'histoire, là.
Mais au-delà des philosophies d'investissement, quelles sont les similitudes que vous observez là entre tous ces grands investisseurs?
Je dirais qu'il y a vraiment deux points communs qui se retrouvent dans tous ces grands investisseurs-là. La première chose, c'est d'abord de considérer l'achat d'actions comme l'achat d'une entreprise. Donc, ils voient vraiment là, les actions comme des participations d'entreprise et non pas des jetons de casino. Ils ne font pas d'analyse technique ou des choses comme ça. C'est vraiment, ils achètent des actions, ils viennent propriétaires d'entreprise. C'est une attitude. Qu'on achète 500 pour leur portefeuille ou 5, c'est la même approche, là. La deuxième chose qui est aussi importante, à mon avis, qu'ils ont tous en commun, ils sont tous d'accord que c'est impossible de prévoir la bourse. Donc, n'essaie pas de timer, entre guillemets, là, le marché boursier. Et je pense que c'est une leçon que beaucoup d'investisseurs devraient apprendre parce qu'encore trop, à mon avis, tentent de prévoir la bourse et perdent du temps à quelque chose qui est carrément impossible à faire, je pense, avec un taux de succès plus élevé que jouer pile ou face, là. Puis je pense que les grands investisseurs ont tous compris ça assez rapidement et je dirais qu'ils ont ça en commun.
Et vous avez aussi comme philosophie d'investissement que si la bourse est impossible à prévoir à court terme, elle est aussi facile à prédire à long terme.
Ben oui, parce qu'à long terme, la bourse finit toujours par refléter la juste valeur des entreprises. Donc, comme les entreprises en général augmentent leurs profits par 6 ou 7 % par année, versent un dividende d'autour de 2 % par année. Je pense que sur une très longue période, il est raisonnable de s'attendre que les actions fassent 8-9 % par année. Historiquement, ils ont fait 10, là, mais disons que ça va être un petit peu plus bas parce que la croissance a quand même ralenti un peu, là. Mais je pense que c'est une bonne prémisse, là. Quand on achète des actions, on vise de faire ça, là, autour de 8-9 % par année. Évidemment, on peut essayer de faire plus si on fait une sélection plus approfondie là, des compagnies qu'on choisit, là. Mais je pense qu'à très long terme, c'est un résultat qui a d'excellentes chances de se produire. À court terme, c'est vraiment jouer à pile ou face, c'est vraiment presque la spéculation casino, c'est imprévisible. Donc, je pense qu'il ne faut pas perdre de temps là-dessus, puis vraiment toujours focuser sur le long terme. Donc, d'abord, on achète des participations d'entreprise, on se comporte comme un propriétaire d'entreprise, puis deuxièmement, d'avoir un horizon à très long terme, puis pas essayer de prévoir la bourse.
Merci beaucoup, Monsieur Rochon.
Ça fait plaisir.